bienvenue à tous à Apple Différemment, votre podcast sur l'univers et l'écosystème Apple. Je suis Matt, alias Prof du Web, et je co-anime cet épisode avec, comme d'habitude, avec Audrey, formatrice, autrice, youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu?
Salut Matt, ben ça va très bien et toi?
Ben moi ça va super bien parce que figure-toi que je suis pas un amateur de neige. C'est compliqué hein pour un Québécois de dire que t'es pas un amateur de neige, mais effectivement je ne suis pas amateur de neige. Et là, en ce moment, ça fond. Alors je suis ultra joyeux, je suis très très heureux en ce moment, tout va bien. Et on oublierait presque qu'on est encore en pleine pandémie mondiale. Mais bon, à part ça, tout va bien. Toi de ton côté, quoi de neuf?
Ben écoute, il ne neige plus. Il commence à faire vraiment beau, on est vraiment au printemps là, ça fait du bien. Beaucoup de travail en ce moment, plein de projets, mais globalement ça va. Besoin de vacances un peu, mais ça va.
Ben écoute, parlant de vacances, quand on va en vacances habituellement, on a tendance à prendre des photos. Alors aujourd'hui, on a un épisode spécial qui va parler de photographie. On a un invité qui va... Ben je te présente, Laurent Pertois, je te présente et ben tu vas pouvoir intervenir tout le long de l'émission. Merci d'être là pour ce spécial photographie.
Ben, merci à vous deux de m'accueillir, c'est un plaisir. Je suis très très heureux et honoré d'être avec vous.
On fera les présentations d'usage, mais tu peux intervenir d'ores et déjà tout de suite.
Tu as le go.
Alors Audrey, on a un commentaire sur iTunes. Je te laisse le dire.
Oui, on a eu un commentaire qui fait toujours plaisir.
Ben oui.
Alors, comment dire, votre podcast est génial. Je suis en train de dévorer les épisodes un par un, j'adore votre façon de vulgariser tout ce qui tourne autour de la pomme, et étant un fanboy mais aussi un développeur iOS, vos conseils me sont d'une grande utilité. Continuez comme ça, ne changez rien. Eh ben écoute, c'est ce qu'on va faire, je crois.
Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. Toujours dans la catégorie commentaires, alors j'ai un petit peu honte de le dire, il y a un commentaire qui est passé dans la boîte vocale il y a quelques mois et je ne l'avais pas regardé depuis quelques mois. Alors c'était en lien avec l'émission qu'on avait fait sur l'Apple Watch et on écoute tout de suite Fabrice.
Bonjour Audrey, bonjour Matt, Fabrice de France. Deux petits points par rapport au dernier épisode. Audrey, d'abord, tu disais que raccourci, shortcut, c'était assez compliqué. C'est pas faux, ça peut être très très compliqué si on veut faire des choses très compliquées et très avancées. Par contre, si on veut faire des choses assez simples, en fait, on peut regarder aussi, il y a pas mal de ressources sur Internet, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des choses qu'on peut télécharger pour un peu comment ça fonctionne et s'en inspirer. Deuxième point, c'est TrueFun. TrueFun, en fait, que... Alors, personnellement, je connaissais parce qu'en fait, je l'ai utilisé par deux fois quand j'étais en vacances. Et ça permet d'avoir aussi, même sur mon 10S, d'avoir un petit forfait éphémère à l'étranger, voilà, sur de la 4G. Pour une petite histoire, je l'avais utilisé à Hong Kong. Et voilà, c'est très, très pratique. Hein. Voilà, donc bonne journée à tous les deux et à tous les auditeurs. Au revoir.
Alors, sortir hors de son contexte, c'est un peu compliqué. Merci infiniment, Fabrice. On parlait de TrueFun comme étant un fournisseur pour les nouvelles fonctionnalités familiales pour les Apple Watch à l'époque. Depuis, ben, on a compris que c'était disponible un peu partout. Fait qu'à l'époque, je me rappelle qu'on avait dit, je connais absolument pas ce fournisseur-là. Moi, je le connaissais pas. Toi non plus. En tout cas, ça te disait pas plus grand-chose que ça. Mm-hmm. Et puis, je rejoins totalement, encore une fois, le fait que Shortcut peut être un délire si vous faites des choses délirantes avec, mais peut être super intéressant si vous faites des choses simples avec. Je pense que c'est un truc qu'il faut retenir de cet outil-là, Shortcut, qui est un système d'automatisation pour téléphone, ben en fait, pour l'écosystème iOS, iPad et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, dans les faits, c'est que c'est vraiment un outil intéressant lorsque vous l'abordez simplement.
Oui, c'est ça. En fait, il a un peu le même défaut que Automator sur Mac, c'est qu'il n'est pas très accueillant au départ. Et je pense que ça pourrait encore être simplifié, mais on garde espoir.
On a quelques nouvelles Apple dont on voulait parler. La première que tu as mis dans les actualités, Audrey, bye bye HomePod. Mais voyons, tu viens d'en acheter un HomePod, qu'est-ce qui se passe?
Alors, non, c'est pas moi, c'est toi Laurent qui a mis ça dans les actualités?
Non.
Ah bah c'est moi.
D'accord.
Alors,
je suis triste de le voir partir quand même, parce que j'en ai acheté un. En fait, c'était mon cadeau de sortie de confinement l'an dernier, tu vois.
Moi, c'est des HomePod mini que j'ai acheté. C'est pas les HomePod.
je blaguais, alors c'est sans doute moi qui l'a inscrit, je suis désolé. Bye bye HomePod, ça fait référence au fait qu'Apple ne vendra plus ou ne commercialisera plus la grosse enceinte connectée qu'ils ont sortie il y a quelques années. Est-ce que c'est un constat d'échec par rapport aux produits haut de gamme audio? Je m'interroge quand on parle des AirPods Max, les nouveaux écouteurs. Je sais pas, est-ce que c'est un effet de la pandémie? Peut-être que les gens ont moins d'argent pour dépenser dans des gros produits de qualité comme ça, ou tout simplement, ben, ils en vendaient pas parce que ça intéressait pas le marché, mais que les gens sont quand même prêts à acheter ce genre de produits-là de qualité. Laurent, comment tu interprètes cette nouvelle-là?
Je pense que Apple, comme souvent, c'est pas une critique, hein, je préfère le préciser avant, mais Apple a visé très haut, en fait, avec le HomePod, le HomePod original, hein, très haut en termes de qualité et ne serait-ce que de qualité du produit et même de qualité du son. Malheureusement, je pense que sur ce genre de produit, les gens s'attendent à plus à un prix qu'à une qualité audio. Et du coup, je pense que le HomePod Mini, lui, va faire un meilleur carton parce que il est quand même plus accessible. Alors on n'est pas encore au niveau des tarifs des produits Amazon et autres, mais pour un produit Apple, je pense qu'on est vraiment dans le très très bas, hein, parce que c'est quoi, c'est 99 euros hein, de mémoire. Donc on est beaucoup plus accessible avec un son qui, alors moi j'en ai pas, donc je peux pas me prononcer, mais de tout ce que j'ai entendu dire, il est quand même très bien placé. Et je pense que pour beaucoup de gens, ce genre de petit produit, plus que la qualité du son, c'est le côté pratique qui est recherché.
Ouais, je suis d'accord. Puis toi, Audrey, pourquoi t'en avais pas acheté un gros puis que t'as acheté des petits? C'est la bonne question, dans le fond.
Eh ben, surtout, en fait, déjà, pour moi, c'était une question de prix parce que le HomePod, il est à 329 euros. Ouf. Et je me suis dit, déjà, si j'en veux un dans mon bureau et un au rez-de-chaussée, bah ça fait déjà presque 700 euros, donc c'était énorme. Mais du coup, j'ai acheté deux HomePod Mini et j'en ai racheté un troisième, donc en fait, j'ai quand même dépensé 300 euros. c'est ça qui est dingue, mais psychologiquement, c'est pas pareil, parce que t'as trois produits au lieu d'un. Et ça. Tu peux du coup les placer, j'en ai un dans mon bureau, deux dans le salon qui servent pour la télé. Donc pour moi, c'est vraiment me dire, j'ai un petit système stéréo pour 200 euros, je trouve ça bien. Par contre, une enceinte à 330 euros, bah, j'avais pas forcément le budget, quoi.
C'est surtout que si tu voulais de la stéréo avec, enfin de la vraie stéréo, ouais, parce qu'il s'en sort quand même pas mal tout seul, mais avec le HomePod original, il t'en fallait deux aussi, de toute façon, par pièce.
Bah oui, c'est ça. Donc, je pense qu'en fait, ils ont fait un produit de haute qualité, hein, parce que je l'ai testé en magasin, enfin, je l'ai pas chez moi, mais je l'ai déjà testé en magasin ou chez des amis. Il est vraiment excellent, mais je pense que c'était pas rentable parce qu'ils pouvaient pas le vendre 600 euros. Mais je pense que leur marge dessus devait être petite, en fait, et s'ils en ont pas vendu assez, c'était pas hyper rentable, quoi.
Ouais, c'était un produit sans compromis, mais sans compromis au niveau du prix aussi, malheureusement. Moi, je l'ai eu, le HomePod, je peux vous confirmer, puis il y a beaucoup de vidéos, là, que le son est juste magnifique par rapport à ça. Je serais tendance à vous dire que ça demeure toujours un bon plan, peut-être sur le marché de l'usager, parce que là, il va sûrement en avoir à vendre. Et je pense que c'est un produit que vous allez pouvoir garder plusieurs années, qui devra être supporté par Apple encore quelques années. Alors, c'est pas un mauvais achat dans le marché de la revente. Je sais pas si vous êtes d'accord avec mon affirmation.
Je pense qu'il va être plus abordable d'occasion et que les gens vont peut-être se pencher dessus maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient, tu vois, j'ai vu sur Twitter des réactions genre « Ah mince, je voulais m'en acheter un pour Noël », enfin voilà. Donc c'est pas un produit qu'on achète comme un HomePod Mini, quoi, c'est pas 100 euros, quoi. Donc c'est pas le même genre de réflexion et du coup d'occasion, c'est vrai que c'est une bonne idée.
Laurent, ton avis ?
Pareil, d'ailleurs j'en ai commandé un deuxième, faire la paire.
C'est maintenant qu'ils vont en vendre plein, quoi.
j'ai honte, alors ce qui est délirant, c'est que celui que j'ai, il est en noir, et j'ai voulu commander un deuxième noir, parce que je voyais pas faire, j'aurais dû en même temps peut-être, mais bon tant pis, et le blanc était disponible tout de suite, et le mien doit arriver mi-mai. Ah. J'ai pas du tout compris, mais et commandé en direct chez Apple, hein, donc. Mais bon, on verra bien, mais oui, j'en ai commandé un deuxième, parce que je me suis dit, ce serait dommage de pas avoir la stéréo. J'avais prévu de l'acheter de toute façon dans l'année, mais je reportais un peu, j'attendais voir ce qui se faisait. Puis là, quand il y a eu l'annonce, j'ai dit « Ah, là, va peut-être falloir y passer ». Donc, bon, j'ai commandé.
Ou alors, c'est une fausse annonce. C'était juste pour en vendre.
Ouais, c'est pas l'habitude d'Apple. Toujours dans le domaine non. du HomePod, on a appris cette semaine, grâce à des photos de iFixit, que ben, la petite enceinte connectée que tu as, Audrey, embarque en secret. Je vois pas où est le secret parce que tout le monde le sait maintenant, là. Un capteur pour mesurer la température d'une pièce. Alors, ça laisse songeur par rapport à l'avenir, là. C'est pas une fake news, là. Il y a un capteur pour la détection de température. Moi, personnellement, je suis dans l'écosystème Amazon pour mes enceintes connectées. Et j'ai la dernière enceinte de chez Amazon qui embarque un capteur de température, et c'est quand même assez agréable de dire que automatiquement ta température va augmenter ou diminuer avec l'air climatisé automatiquement, sans programme, sans quoi que ce soit additionnel. Tu le demandes dans ton application Alexa et ça va bien. Alors j'imagine que ça va être une nouvelle fonction de HomeKit qui devrait... Vous entendez Alexa.
Mais oui. Tu as invoqué Alexa.
Alexa, stop. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'arrête. Et je ne redirai plus le mot parce que probablement que d'autres ont déclenché eux autres aussi. Alors bref, intéressant, des nouvelles fonctionnalités au niveau de la domotique à la maison, en tout cas des maisons connectées. Je trouve ça intéressant. Toi, Audrey, est-ce que tu irais à acheter des thermostats électroniques pour connecter ça à ton HomePod mini?
J'en suis pas encore là. Non, j'avance doucement en domotique, mais je suis pas seule à vivre à la maison aussi. Donc, en fait, faut aussi prendre en compte les avis des autres. Et puis, t'as des gens qui sont un peu, qui en ont un peu marre de la technologie. Donc, c'est un travail au corps qui dure plusieurs mois.
Je vois pas du tout de quoi tu veux parler.
C'est ça. Voilà.
Moi j'ai des ampoules You, mais j'ai acheté la télécommande You pour aller avec parce que on m'a dit non, j'en ai marre de parler à ta boîte. Bon, d'accord.
ouais. Écoutez, j'ai le même problème chez moi, c'est-à-dire que on a acheté des Philips Hue, puis après ça on a acheté des interrupteurs Hue. Fait que finalement des fois on s'est créé des besoins, on a résolu des problèmes qu'on n'avait pas au début avec ces télécommandes-là, c'est particulier. Toujours dans l'écosystème HomePod, les premières versions bêta des logiciels qui embarquent nous montreraient que potentiellement, on pourrait peut-être faire du FaceTime avec nos enceintes connectées. Bon, on peut déjà faire l'audio, mais il se pourrait... Et là, c'est dans les rumeurs. Je sais qu'on n'aime pas ça dans Apple différemment, les rumeurs sur Apple. Mais il se pourrait qu'un HomePod arrive avec un écran. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous l'achèteriez avec un écran? Je vois pas l'avantage, moi, particulièrement. J'en ai chez moi des produits qui commencent par A et qui finissent par XA. Et j'ai les écrans et je vois pas beaucoup d'intérêt à ça. Mais vu que c'est Apple, peut-être ça se vendrait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, peut-être qu'on n'est pas le public ciblé. Ouais. C'est-à-dire que tu mets ça chez un papy ou une mamie... ça serait hyper cool parce qu'en fait il suffirait de lui dire
j'ai pas pensé, ouais, c'est vrai.
Dis appelle ma fille ou appelle mon fils et
c'est vrai.
Je regarde pas souvent la télé, mais je me souviens pendant le, c'était après le confinement ou pendant le confinement, il y avait beaucoup de pubs pour ces produits-là justement de qui étaient reliés, que ce soit dans l'environnement Amazon ou autre, hein, j'ai plus en tête, mais qui mettaient justement ça en avant. Les gens sont éloignés, ils peuvent pas se voir, donc regardez, vous mettez ça chez eux, chez papy mamie, et puis c'est facile de les appeler.
Je crois que c'était Facebook avec Portal.
Ouais, c'est peut-être ça, ouais.
C'est ça la pub possible, qui est tournée en boucle. Ouais. Ouais.
Moi, je rêve vraiment que mon Apple TV puisse embarquer FaceTime avec une caméra, parce que je me dis que, bon, on risque de faire encore beaucoup de visioconférences, même s'il y a un vaccin, on a peut-être pris certaines habitudes, et j'aimerais ça bénéficier de mon écran géant que j'ai dans le salon, dans le confort, pour pouvoir échanger à la place d'avoir un petit iPad ou un petit Mac. Bref, y a aussi ce genre de rumeurs-là qui arrivent par rapport à FaceTime sur Apple TV. On est encore dans la spéculation. On verra si ça arrive, mais moi, je me réjouirais de l'avoir sur l'Apple TV. Et c'est vrai que il y aurait un niveau intéressant pour des personnes un petit peu moins technologues d'avoir ça dans des enceintes déjà tout en un, tout connecté, où on n'a pas à se compliquer la vie. J'avoue que c'est peut-être un marché que j'avais pas pensé. Toujours dans les actualités, on va terminer avec ça parce que j'en parle dans mon dossier un peu plus bas, un peu plus tard, plus bas dans ma note et plus tard pour vous. C'est le premier anniversaire de Mac OS X. En fait, l'arrivée de Mac OS X sur les Mac à l'époque. Est-ce que ça vous évoque des souvenirs, des joies, des peines, Audrey? Audrey en premier, on va y aller.
Alors moi, à cette époque-là, j'étais infographiste, donc forcément, je travaillais sur Mac, et j'ai dû commencer sur Mac sous Mac OS 8 ou 9. Et quand Mac OS 10 est arrivé, c'est surtout l'interface Aqua qui nous a waouh, c'était vraiment les waouh effect, parce que c'était moderne, ça faisait des, comme si c'était un peu comme du liquide bleu qui, ben oui. C'était trop beau, enfin c'était vraiment Apple, ils avaient marqué un grand coup là au niveau.
Est-ce que tu as eu envie de lécher ton écran comme disait
Ouais,
Steve
presque. Presque en fait, donc c'était, moi je suis vraiment intéressée par les interfaces et comme là avec Big Sur, moi j'étais très contente de ce changement, même si il y a encore des petits défauts, mais ça fait du bien de renouveler ce qu'on voit toute la journée devant nos yeux. Les changements d'interface, moi je trouve ça cool et en plus elle s'adapte au temps, enfin au, comment dire, au mode et tout ça, ça traverse les années, mais voilà, là je pense que autant Mac OS X, il y avait besoin d'un gros changement, et en plus on changeait de numéro de version, enfin il y avait une nouvelle, on entrait dans une nouvelle dizaine, et là avec Big Sur, c'est pareil, on passe à la version 11, donc on tous les 10 ans, j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle interface complètement liftée, quoi. Donc moi je trouve, bon souvenir.
Souviens-toi, les premières versions de Mac OS X, on a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles versions de design quand même. Qui se souvient du métal brossé?
Ah oui, c'est vrai, ouais, exact, t'as raison.
Ils ont ça n'a pas duré longtemps, ça.
Ils ont mis un peu de temps à se trouver, en fait.
Ouais, ils ont essayé des choses, c'était marrant, quoi. Mais le métal brossé, c'était peut-être un peu extrême, quand même. C'était bien sur certaines applications, mais dans toute l'interface,
ça faisait
beaucoup, quoi.
C'était un peu lourd aussi, les carnets d'adresses qui ressemblaient vraiment à un carnet d'adresses.
Je sais
comment ça s'appelle.
Le scomorphisme,
ouais. C'était rigolo sur un iPad et sur un iPhone, mais sur un Mac, ça faisait trop, quoi.
Donc, vous comprenez qu'à une certaine époque, on était joyeux d'avoir des interfaces graphiques. Maintenant, on en parle rapidement dans des keynotes. On s'attarde pas beaucoup plus que ça. Vous écouterez dans mon dossier. Je vais tenter une expérience de revivre le dévoilement de Aqua avec Steve Jobs un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, on va passer par notre dossier. Aujourd'hui, on parle de photographie. On parle de photographie, évidemment, avec iPhone. On a un invité de marque. Je l'ai présenté, mais j'ai pas présenté d'où il venait. Alors, Laurent, c'est le moment. D'où viens-tu, Laurent? Pourquoi nous t'avons-nous invité?
Parce que je co-anime avec un de vos anciens invités, Guillaume Jette, et un troisième larron qui s'appelle Mourad, un autre podcast, ça s'appelle Trois Hommes et un Podcast, qu'on fait de manière, on va dire, aléatoire.
C'est le bon mot.
C'est le bon mot. L'année dernière a été une bonne année pour nous, hein. Le confinement nous a permis de bien nous retrouver. Je plaide coupable, hein. J'ai un métier qui, en temps normal, me fait voyager assez souvent et du coup, c'est pas toujours pratique d'enregistrer tous ensemble. Et ça m'arrive de parler régulièrement de photos sur ce podcast parce que la photo, c'est un sujet qui m'intéresse depuis, 30 ans. Oui, du temps de l'argentique à l'époque, et puis passer au numérique ensuite. Donc voilà. C'est assez souvent que je parle photo.
C'est justement pour ça, quand je t'ai entendu parler des capteurs de l'iPhone 12 Pro versus les capteurs de l'iPhone 12 Pro Max, que je me suis dit ouh, Laurent, je vais t'inviter parce que je t'ai trouvé très pédagogue. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et je me suis dit on pourrait peut-être répondre à la fameuse question qui est pourquoi dit-on que l'iPhone fait des belles photos? Ça, on l'entend souvent. Ah oui, mais toi, t'as un iPhone, donc ça veut dire qu'en gros, tu fais des belles photos et que toi, derrière l'objectif, peu importe qui se trouve, la photo sera belle, ce qui est pas vraiment vrai. Mais en tout cas, on a, même si les téléphones d'autres marques se sont bien rattrapés ces dernières années, il y a quand même l'iPhone a quand même eu une belle avance pendant plusieurs années au niveau photo. Donc c'est pour ça que je t'ai invité, Laurent, parce que clairement, t'as des connaissances techniques que je n'ai pas et que je sais pas si Mathieu les avait, mais en tout cas je pense que on va aborder le sujet. Alors j'aimerais bien qu'on resitue un peu le contexte des téléphones Enfin, on va essayer de différencier le téléphone des appareils photo qui les équipent. J'ai retrouvé une photo prise avec mon téléphone en 2005.
Ouh.
Alors, ça devait être un...
Ça doit piquer, ça.
Mais j'en ai encore. En plus, c'est ça le pire. Et elles sont toutes petites. La photo, elle faisait 640 par 480 pixels. Donc, ça fait une définition d'à peu près 300 000 pixels. Aujourd'hui, on est quand même à 12 millions de pixels. Donc, en effet, plus une photo a de pixels et plus elle est nette, enfin mieux définie. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des photos de bonne qualité aussi parce qu'on a des définitions comme ça très très élevées. Donc, bien sûr, tout ça, ça a évolué depuis 15 ans. Mais le tout premier iPhone avait quand même un capteur de 2 millions de pixels. Donc, je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'il se démarquait des autres téléphones. C'était quand même plutôt pas mal à l'époque.
Oui, tout à fait. Ouais, c'était. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que à l'époque, bon, ils l'ont mis parce qu'il fallait le mettre, on va dire. C'était pas une priorité pour Apple. Hein. Dans l'iPhone, c'était une case à cocher, on va dire, dans les fonctionnalités.
Je savais pas.
Oui, c'était voilà, les autres téléphones ont un appareil photo. On va mettre un appareil photo, mais il n'y avait pas l'investissement qu'il peut y avoir maintenant en termes de traitement de l'image, de gestion de la photo. Ils faisaient des trucs, hein. Je veux pas dire que les photos qui sortaient étaient mauvaises, mais on n'était pas du tout au niveau où on en est maintenant. Mais c'est une époque aussi où les gens avaient encore un appareil photo.
Il me semble, tu vois qu'à l'époque de l'iPhone X ou 11, je me rappelle plus. Je pense l'iPhone X. Quand c'était sorti, il y avait une rumeur qui avait dit que juste dans l'équipe de développement R&D photo chez Apple, ils étaient quelques centaines de personnes. Hein.
Je serais pas surpris. Hein. C'est devenu la photo sur les mobiles. Hein. Je vais pas me limiter à l'iPhone, mais la photo sur les mobiles est devenue un point majeur maintenant mis en avant par les constructeurs. Hein. Quand on regarde
la keynote fait une heure et puis on a parlé 45 minutes de l'appareil photo du iPhone. T'as raison.
Ouais, c'est pas surprenant. Ouais, c'est devenu primordial pour beaucoup de gens. Alors je sais pas vous deux si vous avez en dehors de vos iPhones des appareils photo. Ou on va dire un déjà. Est-ce que vous avez autre chose que l'iPhone pour faire des photos?
Moi j'avais un réflexe avant, je faisais de la photo, de la macro, voilà, je m'étais bien équipé. Et puis au bout d'un an, à ce que mon réflexe reste dans le placard et que je fasse que des photos à l'iPhone.
Tu l'as vendu.
Je l'ai vendu. Voilà. Beaucoup de gens, je pense.
Mais on parle de photos, hein, effectivement, on parle de photos, mais la vidéo aussi. Audrey, toi, t'es professionnel, mais tu, c'est une des entrées de revenus que tu as, c'est YouTube, et tu fais ta production avec un iPhone.
Ouais, moi je filme avec mon ancien iPhone, donc c'est le 10R qui est très bien, et en fait. J'ai cherché, en fait, quand j'ai acheté l'iPhone 12 mini, je me suis dit, je vais revendre mon 10R et je vais acheter une petite caméra, enfin, pour avoir une meilleure qualité. Et en fait, au prix, enfin, à la valeur de mon iPhone 10R qui devait être de 400-450 €, je ne trouvais rien de mieux que l'iPhone 10R, en fait, en termes de, comme on disait tout à l'heure, de définition ou de réglage de l'exposition, du verrouillage du focus, du autofocus et puis auto-exposition. Je me suis dit, bon, je garde mon 10R et en effet, je filme toutes mes vidéos. Alors après, c'est pas des vidéos... Moi, je filme mon plan de travail où je montre un autre écran, donc je fais pas non plus des vidéos extérieures ni rien, mais...
Tu veux dire que tu n'en es pas encore à attacher ton iPhone à ta voiture pour aller prendre vidéos vues rasantes sur la plage que tu, comme ils ont fait dans la dernière keynote, hein, d'ailleurs. Hein,
ouais,
le dernier keynote, il y avait quand même des... Je crois que c'est la première fois dans une vidéo officielle Apple où on voit un produit Apple aussi maltraité.
C'est clair, et ouais.
Il était couvert de boue, de sable, mais bon, il en était fier. Mais
c'était aussi pour argumenter le fait que le nouvel écran en céramique est plus résistant. Oui, oui. Voilà, derrière, il y avait ça aussi, quoi.
Bien sûr, non, mais il y avait le marketing Apple. Ils font jamais rien par hasard. Hein. Ça, c'est,
c'est
ça se saurait. Chaque virgule, chaque image est pensée. Donc, mais c'était marrant de voir. Pour une première fois dans une com officielle Apple, un produit Apple qu'on te montre sale, quoi. Enfin, il a vécu quelque chose. Donc.
Ouais. Et dans une autre vidéo, on voit un verre d'eau renversé sur un iPhone aussi. C'est pas non plus fréquent de voir un iPhone qui se prend de l'eau ou qui va sous l'eau. Je sais plus si.
Je crois qu'il l'avait montré, ça.
Il l'avait montré?
Je sais plus. Bon.
Mais en tout voilà, cas, pour en venir à Google la photo. Ouais, c'est ça, pour en venir à la photo, la photographie et la vidéo. C'est vrai que maintenant, dans mon entourage, je ne vois plus de petits réflexes, je ne vois plus d'appareils point and shoot. Voilà. Je vois plus ça du tout. Parce que maintenant, nos appareils sont montés tellement en gamme qu'au niveau vidéo et ou au niveau photo, même que maintenant, avec une meilleure prise de photos à la noirceur avec des iPhone 11 en montant, là, il y a vraiment plus de justification. En tout cas, moi, je peux pas recommander à des gens qui sont pas très connaissants dans le domaine autre chose qu'un appareil photo de leur téléphone.
Mm-hmm. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, le marché de l'appareil photo a pris une claque depuis quelques années. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est plus le marché du compact, donc du point and shoot, comme tu dis, qui a vraiment décliné. Le haut de gamme garde une certaine aura, donc eux, ils arrivent encore à s'en sortir. Mais tout ce qui était, on va dire entre 100 et 300 euros ou moins, hein, a quasiment disparu. Alors, je pense qu'on en trouve toujours, mais par rapport à ce que c'était à une époque où on remonte il y a 10 ans, les rayonnages en étaient pleins. Et d'ailleurs, aller acheter un appareil photo, c'était c'est une jungle, quoi. Fallait passer 4 heures à la Fnac à regarder tout, se dire bon alors lequel je prends. Eh ben plouf plouf, celui-là il est rouge. Voilà. C'est
c'était ça.
Non mais c'était ça. À moins de s'y connaître, c'était ça. Et ça c'est un marché qui a complètement décliné parce que bah voilà, maintenant la majorité des gens ont un appareil sur eux en permanence qui fait des très bonnes photos ou des bonnes photos ou qui pour la plupart des gens, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le HomePod, bah, ça va bien. Le résultat, de toute façon, moi je dis toujours, il vaut mieux une mauvaise photo que pas de photo. Et pas de photo, ça arrive souvent quand on a un appareil photo, parce que je l'ai pas avec moi. Ah, il est dans le tiroir. Ah j'ai pas pensé à le prendre. Le téléphone, on l'a toujours avec soi. Donc on va faire une photo. Et même si elle est un peu ratée, voilà, bon le cadrage est pas parfait, c'est un peu flou. C'est pas grave, c'est un souvenir.
Ouais, effectivement, le meilleur appareil qu'on a, c'est le meilleur appareil photo qu'on a, c'est celui. Exactement. Mais là, si je conseille ça à des gens, je reprends les notes d'Audrey, là, je fais comme si que lui qui avait fait des recherches. Est-ce que c'est 1, 2, 3 capteurs? Combien de capteurs ça prend pour faire des bonnes photos sur téléphone?
Et surtout, qu'est-ce que ça change? Parce que les gens, moi, mes clients souvent me disent, mais du coup, je prends un iPhone SE avec un capteur ou un 12 avec deux capteurs. Enfin, en gros, les gens se disent, mais à quoi ça sert tous ces capteurs? Donc, je pense que c'est une question.
Plus que le nombre de capteurs, en fait, on a un capteur par objectif, en fait, sur l'iPhone. Et c'est une bête raison technique, hein, c'est que ça serait compliqué de rediriger l'optique vers un capteur unique. On n'a pas la place. Ça pourrait se faire dans des appareils plus gros, hein. Ça serait pas très compliqué. C'est un jeu de miroir ou de lentilles. Là, il n'y a pas la place. Déjà qu'ils ont été obligés d'épaissir un petit peu au niveau des objectifs. Donc c'est pour ça qu'Apple met un capteur par objectif. Donc plus que le nombre de capteurs, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'objectifs. Du coup, hein, ils vont ensemble et à quoi ils correspondent. Et si on regarde justement les gammes actuelles, c'est vraiment une question de goût personnel et de quel type de photo on va faire. Est-ce qu'on va plutôt faire la photo standard, tous le font, c'est l'objectif standard, on va dire. Ça, il n'y a pas de souci, c'est le tout venant. On va prendre à peu près tout ce qui passe. Après, il y a deux types d'objectifs qui sont sur les iPhones. Il y a les grands angles et je mets des guillemets, les téléobjectifs, ou en tout cas ce qui est dédié au portrait. Et ça, c'est une question d'optique. C'est le téléobjectif, comme on connaît souvent, c'est celui qui va nous rapprocher, ou en tout cas faire une photo de plus grosse.
Le grand angle, c'est 0,5 ou x1.
X0,5. Ouais, alors le x1, c'est le standard. Le 0,5, c'est le grand angle. Et le x2 ou 2,5, c'est le téléobjectif. Donc c'est en gros, les questions de foi, ça correspond techniquement à approximativement la vision humaine. Alors c'est un tout petit peu pas tout à fait vrai sur l'iPhone, mais on va dire ça. Et quand je dis x2, c'est en gros, je prends le centre de ce que voient mes yeux, et puis je le mets plus près de moi. Donc ça me rapproche de la personne, elle occupe plus du sujet, et ça occupe plus de place dans ma photo, et j'ai l'impression de m'être rapproché alors que j'ai pas bougé physiquement.
Alors Laurent, moi j'ai
on atteindra le même résultat, je termine juste 30 secondes et après je te laisse ta question. Vas-y. On atteindrait le même résultat si on se déplaçait plus près de la personne, qu'on faisait la photo avec l'appareil standard et qu'on coupait au milieu. Mm-hmm. Ah, voilà. Vas-y, pardon.
Mais non, il n'y a pas de souci. C'est passionnant et puis ça me suscite toutes sortes de questions. Moi, j'ai le téléphone en face de moi. Je regarde mes capteurs photos. Alors, les capteurs photos du dos, parce que de oui. face, je vois moins bien. Ça, c'est ça, mais je vois moins bien. Mais je regarde les capteurs de dos et je me dis, oui. bon, le point que je vois au centre, c'est quoi? C'est le capteur, c'est ça?
Alors, le point que tu vois au centre, c'est la lentille.
OK. Alors, le point
c'est
que je vois...
ce qui correspond à l'objectif, quoi, sur les anciens appareils photos, ce qu'on appelait l'objectif. Mais le plus techniquement, c'est la lentille.
Et
ton capteur, tu le vois pas.
OK. Le capteur est en arrière, c'est ça? Quand vous parlez ouais, de capteur, ouais. c'est...
Le capteur, c'est l'électronique qu'il y a derrière.
OK. Voilà. Parfait. Et puis, est-ce que l'élément vitre en avant, là, l'espèce de rond là, transparent,
oui.
est-ce que ça a une incidence pour la photo? Si je raise cet appareil, cet endroit-là, est-ce qu'il y a un problème?
Ça dépend de la rayure.
OK.
Tu vois, ça dépend, ça dépasse, comme disait l'autre. si tu fais une rayure très forte, très, très grosse, oui, tu vas le voir. Si la rayure est vraiment très fine, il y a de fortes chances que ça soit noyé dans ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire, comme c'est tellement près du capteur, ça va être difficile de voir. Après, techniquement, ça va avoir une incidence, ce qu'on appelle de la diffraction, des choses comme ça, les petits photons qui viennent jusqu'à ton capteur, bah, à un moment, ils vont rencontrer un obstacle, enfin, où ils vont être renvoyés ailleurs.
Ok, ça va.
Donc t'en auras moins, et puis tu vas perdre un peu de d'informations à cet endroit-là. Mais globalement, faut pas s'en faire une maladie, à moins que vous y alliez avec une grosse pointe ou un gros clou pour faire une tranchée au milieu de l'objectif.
Les micro-rayures, ça passe quoi.
Ouais, les micro-rayures, faut pas en faire une maladie. Après, il y aura toujours des obsédés de la micro-rayure qui vont dire « Ah, mais là, il y a une micro-rayure, on a perdu un pouillème en définition », ce à quoi je réponds, je m'en fous.
Et, voilà. Et l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment le point qu'on voit en arrière de cette vitre-là.
Voilà, la vitre, elle est plus là pour une protection.
C'est ça.
Qu'autre chose.
C'est comme les filtres qu'on mettait sur les réflexes.
Exactement.
Pour protéger l'objectif, on mettait un
filtre neutre.
En fait, ça faisait comme un petit rond en verre, enfin un cercle. Ouais. Et du coup, on pouvait aussi mettre des filtres de couleur, enfin, on pouvait faire des effets, mais le premier rôle, en fait, c'était que si tu te prenais un impact sur ton appareil photo, c'était juste le filtre qui prenait le coup. Et...
Voilà, ou tout bêtement, même la pluie, les embruns, oui. quand on est en bord de mer, enfin, la poussière, des choses comme ça, c'est plus facile à nettoyer, parce que c'est une surface plane. Et puis, ouais. si on la raye, on peut se dire, bah, tant pis, je le jette et puis j'en achète un autre. Ça coûte toujours moins cher qu'un objectif, surtout sur des gros réflexes. Hein, les objectifs, ça peut coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, là, on peut pas le changer, mais c'est plus facile aussi à nettoyer.
Alors, pendant l'épisode de 3 hommes et un podcast, où tu parlais de l'iPhone 12, enfin des iPhones et de la photo, tu parlais de la photo brute de capteur. Alors,
oui,
ça m'a.
Ce qu'on appelle le format RAW. Et alors, je vais juste peut-être terminer sur les objectifs. Le troisième qu'on n'a pas abordé, c'est le grand angle.
Oui,
c'est souvent le mal aimé. je le fais en deux mots, hein, pour pas qu'on dépasse le temps, mais c'est souvent le mal aimé. Mais pourtant, c'est celui que moi je trouve le plus pratique. Parce que c'est celui qui permet, en fait, de reculer sans qu'on puisse, vous êtes sûrement déjà arrivé, vous êtes dans une pièce, vous voulez faire une photo avec plein de gens, et puis, bah, vous reculez, puis à un moment, il y a le mur, et puis là, il y a toujours pas tout le monde qui rentre dans la photo. Et bien, le grand angle, lui, il va vous permettre de voir plus large que ce que vous voyez habituellement avec vos yeux, sans tourner la tête, hein, j'entends.
Oh, puis le grand angle permet moins de décès, hein, dans le Grand Canyon pour les gens qui reculaient, parce que c'est déjà arrivé, ça.
Exactement. Ça, je veux bien le croire, ouais.
Oh, voilà.
À la falaise des Trotapes, hein, en France.
Voilà. Voilà.
Mais il y en a qui voulaient aussi. T'sais. Recule, chérie, recule. Ah, tant pis, elle est tombée.
Alors, si je veux bien comprendre, là, les trois dont tu nous as parlé, les trois capteurs, c'est pour les pros. Ouais.
Oui.
C'est ça. Est-ce qu'on a de l'information à donner au niveau de la caméra de face, celle qu'on utilise pour faire du FaceTime, qui est au niveau de l'écran? Est-ce qu'elle a des particularités ou techniquement, c'est la même chose, mais elle a moins gros capteur?
Alors, elle a un moins gros capteur. J'ai un doute maintenant sur celle qu'ils nous mettent devant, tu vois. Je crois
qu'ils l'ont amélioré sur les 12.
Ils l'ont quand même amélioré. Hein,
on doit être à 7 millions de pixels en...
Ouais, mais on est toujours moins que ce qu'il y a derrière. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui s'améliorent d'année en année parce que bah, beaucoup de gens font des selfies.
Ouais, mais dogface que je fais sur Instagram. Ouais, c'est ça, mais dogface que je fais sur Instagram sont beaucoup plus belles maintenant.
Surtout sur Instagram où eux-mêmes réduisent la taille de ta photo, donc.
Ok.
Donc, on voulait parler du format RAW.
Ouais. Alors, ce que tu appelais la photo brute de capteur, c'est le fameux format RAW auquel on n'avait pas, enfin, on n'a pas accès sur l'iPhone. Notre photo, quand on la prend,
elle est traitée.
Elle est traitée automatiquement.
Ouais.
Voilà.
Elle est traitée.
Ce qui, la photo donc brute de capteur, c'est le format RAW qu'on peut en effet avoir sur des réflexes ou maintenant il y a le format Pro RAW sur les iPhone Pro. Du coup, on prend une photo, on va dire qu'elle arrive en RAW, donc en brute de capteur dans l'appareil photo de l'iPhone. Enfin, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Et après, il y a un traitement qui fait que la photo est belle et ce qui peut expliquer. Donc, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un algorithme? Qu'est-ce qui traite cette photo-là, en fait? Comment ça s'appelle?
C'est un peu tout ça parce que, il faut savoir, c'est qu'une photo au format RAW, c'est horrible. En fait, tout le monde fantasme sur le format RAW, mais une photo au format RAW, quand on la regarde brute, vraiment brute de décoffrage, hein, sans aucun traitement, c'est quelque chose qui est qui a peu de contraste, qui est déjà qui est noir et blanc. Oui, les capteurs voient en noir et blanc. Hein.
D'accord.
Les capteurs, ils voient un niveau de lumière en fait. Et devant ton capteur, tu as ce qu'on appelle une matrice qui va faire que, alors la plus courante, c'est la matrice dite de Bayer. Qui est en fait un ensemble de petits filtres vert, rouge et bleu pour reconstituer la couleur. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a deux fois plus de vert. Il y a deux fois plus de vert que de rouge et de bleu. C'est-à-dire qu'il y a deux verts pour un rouge et un bleu.
Ok.
Mais ça, c'est derrière les algorithmes parce qu'il vaut mieux filtrer beaucoup plus de vert, c'est mieux pour reconstituer les autres couleurs. Mais c'est assez surprenant. Mais un capteur, lui, il voit aucune couleur. Il a aucune idée des couleurs. Et c'est juste que comme on sait sur le capteur où sont les petits points verts, les petits points rouges, les petits points bleus, qu'on peut en déduire en disant, ben voilà, là, on a filtré. Donc, et ce qui nous arrive, c'est du bleu, c'est du rouge, c'est du vert. Et donc, on va pouvoir reconstituer les couleurs. Et après, on fait des déductions aussi par rapport à ce qu'il y a autour pour pouvoir faire une photo couleur à partir de ce capteur qui, lui, ne voit que des niveaux de gris. Et donc, un format RAW, c'est horrible. Si on fait aucun traitement, ça donne une photo moche.
Mais RAW, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est si quelqu'un dit ta photo est dégueulasse, tu peux pas comprendre parce que c'est le format brut, ou
ça peut être ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire RAW? R-A-W quand on dit
RAW, ça veut dire cru cru. Donc c'est vraiment le format tel qu'il est vu par le capteur. Et derrière, de toute façon, tous les appareils photo numériques font un minimum de traitement pour qu'on ait quelque chose de regardable. Et c'est là-dessus que Apple et Google aussi, hein, avec Android, ont fait un boulot mais monstrueux pour arriver à partir d'appareils photo qui sont quand même techniquement sur des tout petits capteurs, arriver à sortir des photos telles qu'on les voit aujourd'hui avec la qualité qu'on a aujourd'hui.
La luminosité, ouais, c'est fou.
La luminosité, quand on regarde les photos qu'on arrive à faire maintenant le soir ou quasiment de nuit, ça c'est moi quand je faisais de la photo encore en argentique et même en numérique, enfin les premières fois que j'ai vu les photos, que ce soit chez Google ou chez Apple de nuit faites avec un iPhone, j'ai fait ok, ça, pour arriver à faire ça avant avec mon matériel réflexe, il me fallait des heures.
Et ouais, et puis il fallait un boîtier en ISO, enfin voilà, c'était énorme ce qu'il fallait voilà, un boîtier pro à 6000 euros quoi, enfin
ouais, il fallait ou être très patient et puis du matériel pour faire en sorte que je vais donner un exemple, mais quand on photographie les étoiles, les étoiles, le problème des étoiles, c'est que, alors, un des gros problèmes de l'être humain, c'est qu'il a un œil fantastique. Et les appareils photo rêvent d'avoir l'œil de l'être humain. C'est que nous, quand on regarde les étoiles, on les voit bien. À part si c'est nuageux, évidemment, mais on les voit très bien. Et si vous essayez de faire des photos, tout le monde a essayé de faire des photos de la nuit du ciel étoilé.
Bah ouais.
Et le résultat est toujours horrible. Enfin, moins maintenant, parce qu'on a des appareils qui savent le faire. Mais on va dire encore 3-4 ans, ça donne un résultat qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu, parce que il y a très très peu de lumière la nuit, c'est le principe de la nuit. Mais les étoiles, c'est pareil.
En fait, la lumière d'une étoile, elle met tellement de temps à arriver au capteur que on est déjà parti. En fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis elle en envoie déjà pas beaucoup. Alors si, chez elle, il y en a beaucoup, mais le temps que ça arrive chez nous, il y en a beaucoup de perdu. Mais voilà, il fallait avant faire des temps d'exposition qui se comptaient en minutes, voire pour certains cas en dizaines de minutes. C'est-à-dire avoir l'appareil photo qui ne bougeait pas pendant, on va dire, 10 minutes pour photographier un ciel étoilé. Sauf que si on fait ça avec un vrai appareil photo, on le voit pas bien nous, mais lui, il va le sentir en 10 minutes. La Terre, elle bouge.
Eh oui.
Et si vous restez 10 minutes sans bouger, bah, la Terre, elle a bougé. Et du coup, vous allez avoir un effet de filet. C'est-à-dire que les étoiles, on va avoir l'impression d'avoir que des étoiles filantes.
Je voudrais juste faire un disclaimer là, pour les platistes qui pourraient nous écrire. en fait, c'est le ciel qui bouge, la Terre ne bouge pas. Hein. Je veux juste rectifier.
Voilà, oui, oui.
Excellent, excellent. Et moi, ma question, c'est pourquoi encore parler de fichiers bruts en 2021? Maintenant, l'iPhone, on est capable de sortir les fichiers bruts, mais qui a besoin de ça si finalement l'ordinateur fait beaucoup mieux que toi?
Très peu de gens.
Voilà.
Très peu de gens. On va pas se mentir. Mais les gens que ça intéresse, c'est des gens qui vont être capables, dans certains cas, de faire mieux que ce que fait l'iPhone.
OK.
Parce qu'ils sont conscients, au moment où ils ont pris la photo, que, OK, là, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on veut, les algorithmes tout, qu'il peut y avoir dans n'importe quel appareil, y compris l'iPhone, ils vont se faire piéger parce que j'ai des trop grandes différences de luminosité entre le premier plan et l'arrière-plan, par exemple. Ça, c'est un grand piège en photo, vous avez dû tout savoir ça. Soit vous faites une photo, le premier plan, il est tout noir et derrière, c'est magnifique. Ou c'est l'inverse, le premier plan, il rend bien, puis derrière, vous avez l'impression d'avoir du blanc, du lait.
Ouais.
Et ça, c'est un problème aussi, c'est... Ouais. Alors, c'est là où le HDR peut aider, effectivement. Mais c'est un problème aussi, c'est que, là encore, l'œil humain et le cerveau humain sont super bons pour gérer ça. L'appareil photo, bah, techniquement, il n'y arrivera jamais.
Mais là, Audrey, tu parles d'HDR. C'est quoi HDR? Parce que moi, j'y connais absolument rien et je veux comprendre.
En fait, le HDR, c'est une option sur l'iPhone, qu'on a depuis plusieurs années. Là, on doit être au Smart HDR 3, quelque chose comme ça. Enfin, c'est du marketing, mais en tout cas, le HDR évolue. Moi, j'ai quand même vu une différence entre mon 10R et mon 12, parce que mon 10R était très flatteur. C'est-à-dire qu'il mettait un peu trop de jaune quand j'activais le HDR, alors que le 12 est quand même mieux calibré, j'ai envie de dire. Donc, quand on prend une photo, Mathieu, tu t'es déjà retrouvé, par exemple, tu vois, quand il y a un lac gelé chez toi, parfois, le lac est tellement blanc que ton ciel, il va être tout moche. T'arrives pas à, t'as beau faire la mise au point, soit tu choisis le ciel, ou soit tu choisis le lac ou le sable. Enfin, quand on a de la lumière comme ça, l'appareil photo arrive pas à nous rendre les couleurs qu'on voit nous à l'œil avec nos yeux. Du coup, quand tu actives le HDR, l'iPhone te fait trois photos. Une exposée sur le ciel, une exposée sur ton lac ou sur le sable. Et après, il combine ces photos-là. Attends, j'ai dit trois, donc un. Et voilà, enfin la troisième photo, c'est une combinaison des deux photos. Et du coup, tu as souvent des résultats meilleurs, un peu, quand même pas très naturels, mais en tout cas, ça sauve une photo, on va dire.
Disons qu'il essaie de prendre le meilleur de chaque photo.
C'est ça, ouais.
Il élimine ce qui est... Alors, quand on en photo, on parle de... Quand c'est tout noir, c'est bouché, et quand c'est tout blanc, c'est cramé.
ce que je comprends, c'est que l'intelligence artificielle, elle est aussi à ces niveaux-là. Quand vous parlez d'intelligence artificielle, elle est à plein de niveaux, au niveau des couleurs, au niveau des expositions, au niveau de la luminosité, à des niveaux incroyables. Tout. Et tout ça se fait en quelques microsecondes, ces calculs-là.
Mm-hmm. Oui. Oui, bah tu vois maintenant sur un iPhone 12, enfin sur les derniers processeurs Apple, t'as toute une partie qui est dédiée qu'à ça.
Et ouais.
Effectivement.
C'est-à-dire qu'ils ont, quand ils ont conçu le processeur, ils ont dit, OK, ce quart-là, c'est juste pour les photos.
Bon, ouais, c'est ça.
Exagère, mais pas là. C'est montrer à quel point la photo est devenue primordiale pour Apple et pour plein de gens, et c'est pour ça que on sort avec un iPhone. Moi j'ai encore du matériel appareil photo type réflexe. Enfin c'est plus du réflexe maintenant, c'est du moi je suis passé sur du Fuji mais avec un des objectifs que je peux changer et ainsi de suite, et quand je pars en voyage c'est ça que j'emmène, mais au quotidien je me vois pas sortir avec ça, et je suis très très content de ce que fait mon iPhone. Alors, il y a quelques cas où il va se prendre les pieds dans le tapis, mais ça je peux pas lui en vouloir. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait sur l'euro. Je vous enverrai tous les deux. Il y a deux articles assez intéressants, et notamment un qui est fait par les gens qui développent le logiciel qui s'appelle Halide, Halide, qui est un appareil photo alternatif sur iOS, qui lui permettait depuis longtemps de faire du RAW, parce qu'en fait Apple l'offrait comme une option aux développeurs, et qui explique justement le RAW, le Pro RAW, et qui montre justement, qu'est-ce que l'euro, comment ça fonctionne, et dans quel cas le pro-euro va servir, et dans quel cas l'euro, évidemment, ils vendent quand même un petit peu leurs produits, mais ils sont assez objectifs, hein. C'est qu'à le dire.
on mettra ça, sur l'intérêt de chacun. On mettra ces liens dans les notes de l'émission, comme ça nos auditeurs pourront lire ça.
C'est dense, hein, je vais pas mentir, c'est une demi-heure de lecture, et malheureusement c'est en anglais, mais ça montre bien justement, et ils expliquent parfaitement ce qu'est l'euro, où ça peut servir. Ils montrent une matrice aussi, tiens, dont je parlais tout à l'heure, matrice de Bayer.
Ah, du coup, moi j'avais une question par rapport aux iPhone Pro, donc qui oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, est-ce que je prends le 12 Pro ou le 12 Pro Max ? Enfin, c'est surtout entre ces deux-là que les gens se posaient des questions. Moi, j'ai vu des comparatifs de photos prises avec les 12 Pro et les 12 Pro Max. Quant à l'œil, comme moi, j'étais infographiste avant et que je peux très bien voir une différence de netteté qui est vraiment infime sur un coin d'une image ou tout ça. Mais du coup, on peut quand même se dire que le 12 Pro Max, c'est quand même réservé aux gens qui veulent vraiment faire de la photo, qui veulent utiliser leur iPhone comme un appareil photo à 100%, quoi.
Oui, c'est en dehors de la photo, c'est un appareil. Après, faut aimer les grands écrans, mais c'est la première fois que moi je suis passé sur un format max, enfin sur le format maximum.
D'accord.
C'est un format qui m'a toujours, à chaque fois que je les regardais, je les essayais, je dis c'est trop grand pour moi, c'est trop grand pour moi. Là, c'est vraiment parce que justement il y avait une différence entre les deux au niveau appareil photo que je suis passé sur le max. Alors je suis très satisfait au niveau de la photo. Je suis toujours très pas très frustré, mais de temps en temps je me dis ah, c'est quand même trop grand pour moi quoi. Pourtant j'ai des grandes mains. Hein.
Mais il est immense. Le 12 Pro Max
il est quand même immense. Il y a des moments où pour atteindre les coins c'est un peu en équilibre parce que je l'utilise souvent d'une seule main. Pareil, le téléphone. Et du coup, il y a des moments où c'est je vais sortir la deuxième.
Mais ce que j'entends souvent dans mon entourage, c'est que tu sais, hein, je vais faire une grande généralité et vous aurez le droit de me critiquer. Mais on voit souvent des gens dans les notes de l'émission, évidemment, après avoir mis 5 étoiles sur iTunes.
Voilà.
On voit souvent des gens qui se disent vraiment excessivement spécialistes parce qu'ils ont un appareil énorme avec un objectif énorme. Puis des fois, je compare leurs photos et les miennes, puis je fais « bof, je vois pas vraiment la différence ». Et là, des fois, les arguments viennent dire « oui, mais moi, j'ai plus de pixels, moi, j'ai plus de richesse, moi, je peux faire des impressions plus grandes, et ainsi de suite ». Est-ce que c'est vrai que c'est réservé, au niveau des impressions, par exemple, est-ce que c'est vrai que c'est réservé encore aux appareils professionnel ou on peut faire des belles impressions d'affiches avec des exemple le pro ou même le normal, le dernier iPhone?
Alors là c'est Audrey qui pourrait nous parler d'expertise.
Écoute, en fait l'impression d'une image ça dépend de sa définition et donc du nombre de pixels du capteur de l'appareil photo. Donc aujourd'hui avec 12 millions de pixels sur les iPhone 12, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, sauf si tu veux faire un 4 mètres par 3, mais sinon, clairement, tu peux faire. C'est énorme. Quoi,
parce qu'un 4 par 3, c'est souvent vu pour. C'est conçu pour être vu de très loin. Et en fait, quand tu t'approches, tu vois que c'est très
moche. Oui, c'est que du point. C'est que des points, mais.
C'est des gros points.
Ce que je veux dire, c'est que si tu veux te faire une affiche pour encadrer.
Un tirage d'art,
ça suffit. Enfin, aujourd'hui, avec les définitions qu'on a, ça suffit, ouais.
Tu peux sans aucun souci sortir un format A4 et là tu verras rien. Sur du A3, ça va dépendre du sujet et du niveau de bruit. Alors le bruit, c'est quand il y a justement pas assez de lumière, on voit ça fait des petites pastilles de couleurs là où ça ne devrait pas y en avoir, des choses comme ça. C'est là où moi je mets la limite. Le A3, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais ça dépend du sujet.
Ça dépend du papier, ça dépend du. Il y a plein de paramètres.
Ça dépend de plein de choses.
Ouais.
mais après, il faut se dire que l'immense majorité des gens regardent leurs photos sur quoi ? Sur leur iPhone, peut-être sur leur iPad, au mieux sur leur écran d'iMac. C'est une réalité. Les gens n'impriment plus. C'est une deuxième industrie qui a été ravagée, on va dire. C'est les photographes de quartier où on allait mener sa pellicule et où on la récupérait dans le meilleur des cas une heure après, voire parfois deux ou trois jours après, hein, comme moi j'étais petit, il fallait attendre. Et on regardait les photos au format 10-15, et au final c'est la taille de l'écran de mon iPhone. Hein. Et puis de temps en temps on se dit « Ah, celle-là elle est bien, on va la faire agrandir, quoi. » Mais c'était une exception. Maintenant les gens ils regardent sur leur téléphone. Et j'aurais tendance à dire, et c'est pas une critique, mais encore pire, ils vont les mettre sur Instagram qui, là, va encore réduire le format de l'image.
Ouais, c'est clair.
Effectivement.
Et bon, voilà, et c'est un changement, hein. Moi, je le critique pas. Il y a des gens qui vont le critiquer. Moi, je dis toujours, tant que vous êtes heureux de voir les photos que vous voulez voir, c'est merveilleux. J'ai toujours le souvenir d'un magazine photo que je lisais, alors qu'il dit toujours, ça s'appelle Chasseur d'images, où un jour il disait, la photo la plus importante pour les gens, c'est celle qui leur évoque quelque chose. Même si elle est floue ou mal cadrée, c'est pas grave. Si c'est peut-être une personne qu'ils aimaient et qui a disparu ou qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, ça leur fera toujours beaucoup plus. Ils auront toujours beaucoup plus de choses en la regardant qu'en voyant le plus beau tirage du meilleur photographe du monde.
D'où d'ailleurs l'utilisation assez intense de la fonction souvenir dans l'application photo sur iPhone, parce qu'en fait quand il nous dit vous avez un nouveau souvenir, il y a un an vous faisiez ça, enfin ouais. C'est pas forcément vivre dans le passé, mais c'est se remémorer les bonnes choses qu'on a vécues, les gens avec qui on était à ce moment-là, l'émotion qu'on a eue à ce moment-là, enfin c'est sûr que les photos c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour
quelle
revivre.
Fonction fantastique. Enfin, ouais. Moi, je suis assez fan. C'est aussi un moyen de replonger dans les milliers de photos qu'on fait maintenant.
Ouais. C'est un autre problème.
Ça, c'est un deuxième problème. C'est la gestion des photos et les milliers de photos qu'on est capable de faire chaque année, comparé à avant où ça avait un coût de faire une photo.
Ouais.
Ah oui, les pellicules de 12 ou 24, on les avant de déclencher, on réfléchissait. Hein. Ouais.
Ouais. Maintenant, c'est clac, clac, clac. Moi, je ferai le tri plus tard, puis on le fait jamais.
C'est ça. Excellent. Au niveau, pour finaliser le dossier de la photo, au niveau des capteurs, au niveau des nouveautés, Laurent, toi qui connais ça techniquement et ainsi de suite, qu'est-ce que tu nous souhaites pour les prochaines itérations d'iPhone?
Je souhaite un mouton à cinq pattes, moi, comme toujours. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils améliorent le grand angle, parce que moi, je suis personnellement assez fan du grand angle. J'aime bien faire des photos en grand angle. Alors, faut se méfier. Hein. On peut faire du grave aigu, parce que le grand angle, ça a tendance à déformer aussi. Si vous n'avez jamais essayé, faites une photo en grand angle de quelqu'un de proche, proche de votre objectif, vous allez voir, ça allonge. C'est Cyrano de Bergerac en un instant.
Okay.
mais je souhaiterais, c'est le capteur le plus mauvais des trois, hein, on va pas se mentir. C'est celui que je souhaiterais qu'ils améliorent. J'aimerais bien monter un peu en termes de définition, c'est-à-dire passer de 12 à peut-être 16 ou 24 un jour. Mais là encore, c'est toute affaire de compromis, hein, parce que si on met plus de pixels sur un capteur de la même taille, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus petits. Et s'ils sont beaucoup plus petits, il y a plus de chances que les photons les ratent.
Ou qu'elles soient beaucoup plus lourdes aussi, quoi. Parce que c'est ça.
Elles seront plus lourdes, ça c'est sûr. Ouais, mais ça, maintenant.
J'ai vu une pub à la télé pour je sais plus quelle marque de téléphone, qui faisait du 80 millions de pixels. Et l'argument qu'ils mettaient en avant, c'était de dire, vous pouvez mettre pause pendant une vidéo que vous avez filmée et faire une photo et faire un tirage. Tu vois, t'as une vidéo de 3 minutes, tu mets pause à l'endroit magique, on va dire, et là, tu sors une photo de cette vidéo, et grâce à la définition, c'est comme si t'avais pris la photo à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est un usage, je pense, qui va faire que les définitions vont continuer à évoluer. Après, il y a quand même le problème du stockage et de la place, quoi.
Alors ça sera un problème éternel. Ça, c'est sûr. Plus on va faire des photos de grande définition, plus elles vont s'alourdir. Même si le format HIC, HEIC a amélioré ça avec une meilleure compression sans perte. Mais évidemment, mais après, c'est rien comparé à la vidéo.
Oui, c'est sûr.
Je me rends compte en vous écoutant que on a des fichus bons appareils, que les objectifs et ainsi de suite, c'est correct, mais ce qui s'améliore le plus, et c'est peut-être là où je me trompe, mais ce qui s'améliore le plus, c'est toute l'intelligence, la richesse qu'on ajoute.
C'est clair. Et c'est là où, tu vois, par exemple, avoir un format RAW, ça a un intérêt pour les professionnels. C'est que ton format RAW, comme je disais tout à l'heure, il est brut du décoffrage, il sort de ton capteur, il a jamais été touché. Et après, tu vas le développer d'ailleurs. Hein. Si ceux qui ont utilisé des produits comme Lightroom ou équivalent, la première phase que tu fais, c'est une phase dite de développement. Alors, c'est pas du développement à l'ancienne avec de la chimie, mais c'est pour reprendre un peu l'idée. Mm-hmm. Tu vas le développer, c'est-à-dire tu vas interpréter le résultat du capteur. Et en fait, une photo que tu as faite il y a 10 ans, si tu l'ouvres maintenant dans le Lightroom actuel, il y a des fortes chances qu'elle soit meilleure que quand tu l'as ouvert il y a 10 ans dans le Lightroom de l'époque. Parce que ben, les produits se sont améliorés et à partir de la même donnée brute, ils vont ressortir plus de choses. Mmh. Ils vont aller plus loin dans le traitement. Donc c'est assez rigolo.
Es-tu en train de dire qu'on serait mieux de conserver nos photos RAW en format brut pour pouvoir peut-être mieux les exploiter plus tard? C'est-à-dire qu'une photo que je prendrai en 2021 pourrait être meilleure, même si elle a été prise en 2021, en 2030?
Alors, techniquement, oui. Okay. Après, il faut avoir une patience de moine copiste pour se dire, je reviens sur mes photos d'il y a 10 ans, que j'ai faites en RAW, que j'ai stockées. Alors, faut voir aussi que le format RAW prend énormément de place, puisque c'est vraiment, il n'y a pas de compression ou très peu, pour se dire, tiens, je vais les reprendre, je vais les rouvrir dans mon logiciel de traitement d'image, je vais jouer sur les différents réglages, et je vais améliorer ma photo. Ça, faut une patience de moine copiste, hein, faut pas se mentir. Peu de gens font ça, donc pour l'immense majorité des gens, le RAW n'a aucun intérêt. Et ce que sort l'iPhone, c'est très très bien, et restez-en avec ça.
Ouais.
Excellent. Audrey, est-ce qu'on conclut le dossier sur la photo? Je pense qu'on en fera d'autres, d'après moi.
On pourra en parler des heures, mais c'est clair. Donc là, on est un peu limité par le temps aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, bah, merci Laurent pour toutes ces explications.
On va faire une émission technique pour expliquer comment fonctionne la photo, si vous voulez.
Après, vu que tu nous tends la perche, c'est sûr que on aimerait savoir plusieurs trucs pour bien prendre des photos, par exemple. On pourrait faire un dossier pour ça. Merci infiniment pour.
Avec plaisir. Je serais enchanté de revenir vous parler de photos. C'est un sujet qui me passionne. Et comme vous voyez, je peux en parler pendant des heures.
Puis il y a matière A en plus.
Ah oui.
Je vais conclure avec une application que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Mobile Addict qui s'appelle Best Photo. Vous venez juste de parler que le problème, c'est le stockage. Le problème, c'est de savoir éliminer. Et Audrey aussi m'a mis au défi cette année de faire le ménage dans mes photos. Elle trouvait que j'avais beaucoup trop de photos dans un exercice de minimalisme.
Non, mais combien t'as de gigas de photos? C'est abusé.
C'est un téra, pas loin d'un téra.
C'est beaucoup trop.
Ouais, c'est ça. et donc, je t'ai pris au mot et l'application que je vous propose, ça s'appelle Best Photo. C'est une application qui est gratuite, mais les avantages de l'application sont payants, c'est-à-dire que pour en tirer le bénéfice complet, il va falloir payer à peu près un 10 euros pour pouvoir jouer avec ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette application-là? C'est que ça va rechercher des doublons dans votre galerie de photos iPhone. Ça arrive, ça arrive souvent même qu'on prenne 2, 3, 4 fois la même photo. Ça va aussi faire le ménage dans les photos vidéo par erreur. Vous connaissez ça, ce type de photo-là, que vous prenez parce que vous avez glissé par erreur le mode vidéo et que vous avez déclenché une vidéo de 1 seconde et ça vous prend 1 seconde pour vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Alors, elle va détecter ce type de photo par erreur-là. Et elle a une espèce d'intelligence artificielle, cette application-là, pour détecter les photos similaires, pas identiques, mais similaire, et elle vous présente une interface intéressante pour vous dire, dans ces similitudes-là, de toutes ces photos-là, laquelle veux-tu garder? Ce qui vous permet de faire de l'espace sur vos stockages, l'espace sur votre iPhone. Alors, je ne saurais que vous la recommander. Il y a aussi plusieurs autres fonctionnalités, comme détecter des photos qui ont des métadonnées bizarres. Des fois, on importe des photos, puis la date de la photo est 1970, alors que vous venez de photographier une Tesla. Ça arrive. Alors, elle va détecter ce genre d'erreur-là, ce genre d'anomalie-là. Je vous la conseille si vous êtes dans un exercice de faire le ménage dans vos photos, de regagner de l'espace, puis surtout, de pas consommer de l'énergie pour rien. Hein. Ça nous tient à cœur, Audrey et moi, de pas consommer, de consommer intelligemment, je dirais. Cette application-là peut vous aider à regagner de l'espace dans votre stockage cloud ou même sur votre stockage physique.
Donc, c'est Best Photo.
Best Photo avec un S. Évidemment, le lien est dans les notes de l'émission. Moi, je voulais vous faire... dans l'actualité, je vous parlais que Mac OS X, la version Aqua de l'interface des Mac est arrivée il y a 20 ans. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est arrivé un petit peu avant. Je pense, Laurent, tu m'avais dit au mois de juillet 2020.
Juin 2000. Ouais, juin ou juillet 2000. Ouais.
Dans ces années-là, faut comprendre que Apple présente ça au niveau des développeurs au début, puis après ça, va sortir une vraie version quelques mois plus tard. Eh bien, Aqua, la version est sortie en 2000. Et je voulais juste repasser quelques minutes avec vous. Et puis, je vais vous les traduire. Je vais faire des pauses, puis on en discutera de la keynote que Steve Jobs avait fait à l'époque sur la sortie de Aqua. Alors, on va y aller comme ça. Et vous me dites si vous entendez bien. Alors, là, on a Steve Jobs qui, évidemment, fait la présentation de Mac OS X. Évidemment, tout le monde applaudit. Et il parle de quelque chose d'essentiel. And one more thing.
The one more thing is, we have been secretly, for the last 18 months, designing a completely new user interface. And that new user interface...
Alors, ils ont secrètement préparé l'interface depuis plusieurs mois, et là, c'est le one more thing, il va l'annoncer. L'interface, le user interface, l'interface graphique.
...builds on Apple's legacy and carries it into the next century. And we call that new user interface Aqua, because it's liquid. One of the design goals was when you saw it, you wanted to lick it.
Alors, il annonce que il va y avoir, en plus de tous les éléments de la nouvelle version de Mac, va y avoir une nouvelle interface gratuite, pas gratuite, graphique, et qu'ils l'ont appelé évidemment Aqua, parce qu'on veut, comme on disait tantôt avec Laurent, on veut que vous le léchiez.
Voilà. And so we call it Aqua, and this is the architecture for Mac OS X. And we are incredibly, incredibly excited and pleased with how this has turned out. Now, when we talk about user interfaces, let me show you. This is it. No.
Alors, la blague, c'est qu'il monte, à l'écran et il dit, bon, ben, avant de vous faire une démonstration, je vais vous montrer des choses. Puis, il montre une vieille interface grise de Mac, des anciennes versions, évidemment, c'est ça la blague. Et regardez ce qui suit. Écoutez.
This is what started it all. Right, the original Macintosh in 1984, 512 by 384, dots on the screen, black and white, kicked off a revolution.
Alors, voici tout ce qui a commencé. Il montre la première interface de 1984 en noir et blanc. Il explique là où tout a commencé. Et vous allez voir que c'est une personne qui a beaucoup de rancœur en lui.
We saw others follow in the late 80s. This is Windows 3.1 in the late 80s.
Alors évidemment, il dit après ça, vous allez voir tous ceux qui nous ont suivis, et il montre Windows à la fin des années des années 80.
Il n'a pas été méchant parce qu'il a montré 3.11.
Ouais.
Il faut voir si je vous retrouverai des images, ça vous intéresse, mais Windows 1 et Windows 2, c'était immonde.
Oui.
Il faut les voir une fois dans sa vie.
Ah, j'ai connu le 3.11, mais pas ceux d'avant.
Je vous trouverai des images.
And Apple followed up in the mid 90s with the current user interface called Platinum, still the best thing out there. And then this is Windows 98, which obviously came out in 98. So these are the user interfaces out there. They're all credible. They all work. How do we take this to the next level?
Évidemment, il montre Windows 98. Il a montré l'évolution des interfaces graphiques.
And I'd like to demonstrate it for you.
Et là, il démontre.
You get a little feeling for what bouton. Aqua may be like.
So
I'd like to just start off.
Quand on
you know,
y pense, new user maintenant. Interface, on voit plus ces démonstrations-là dans le fin détail de l'interface. Il y avait que lui, je pense, pour faire ça. Ou ben, peut-être pas, mais je trouve que quand on regarde l'histoire des présentations de Steve Jobs, on s'est pas arrêté depuis à ces niveaux de granularité-là, ces niveaux de détails-là dans les interfaces. Et là...
Je suis...
Oui, vas-y.
Non, vas-y.
You have to start off saying, what are the simplest elements in it? What does a button look like?
Qu'est-ce qu'un bouton?
And you spend months working on a button. That's a button in Aqua. This is what radio buttons
Qu'est-ce
look like.
Qu'est-ce qu'un radio bouton? Vous savez, c'est...
Simple things.
C'est cases à cocher.
This is what check boxes look like. This is what pop-up lists look like. Again, you're starting to get the feel of this. A little different.
Je trouve ça tellement intéressant de vous faire entendre ça. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. On a déjà parlé de l'histoire des interfaces avec Audrey, et là on parle d'une présentation d'un nouveau design d'interface. Mais maintenant, on passe plus autant de temps sur chaque élément. Voici à quoi va ressembler un bouton. Voici à quoi va ressembler une liste déroulante. Mais, voici, oui.
Mais c'est, il a totalement raison parce que aujourd'hui, les boutons sont de plus en plus simplistes. Et les gens qui n'ont pas pris le train en marche, j'ai envie de dire, il y a 10 ans ou 5 ans avec les iPhones et tout ça, parfois, Ils sont perdus devant un bouton, ils comprennent pas la symbolique qu'il y a derrière, alors que nous, on est des utilisateurs très réguliers, donc on a, enfin notre œil, on va dire, s'est habitué au fur et à mesure des années à ce que ce soit de plus en plus simplifié. Mais les gens qui débutent aujourd'hui, ils sont souvent, ils comprennent pas, et en plus, il y a pas forcément l'explication en dessous du bouton, donc il faut faire attention aussi. Je trouve, enfin, ouais. Apple simplifie quand même beaucoup les interfaces et parfois, l'utilisateur est un peu paumé, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que nous, en tous les cas, je connais pas ton âge, Laurent, mais je pense le deviner. T'es dans les âges où t'as commencé avec l'informatique, peut-être, plus...
Oh, je peux le dire, hein, j'ai 46 ans, donc j'ai pas de problème à le dire, mais j'ai commencé l'informatique sans interface graphique, effectivement.
C'est ça, alors...
Et puis après, c'est venu.
T'as suivi une évolution, t'as suivi une démarche ouais. d'apprentissage, comme dit Audrey,
bien
que
sûr.
Les jeunes n'ont plus. Et que certaines personnes plus vieilles n'avaient pas besoin de suivre à une époque, mais maintenant que la pandémie est arrivée, tout le monde doit suivre un petit peu des interfaces et s'adapter. Et je suis tellement d'accord avec toi. Regardez tout simplement quand vous êtes dans Safari. Beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre la barre d'adresse et la barre de recherche du moteur de recherche, tout simplement maintenant. On tape des adresses dans la barre de recherche du moteur de recherche. Et ça crée toutes sortes de problématiques là-dessus. Fait que ça, c'est juste pour la barre de recherche, mais c'est vrai pour les boutons qui sont moins boutons. On les comprend avec à quoi on les comprenait bien, les boutons. C'était un gros bouton bleu. C'était assez simple.
Ouais.
On va continuer avec le petit détail là qui fait tout, je trouve. Et après ça, on va arrêter pour fêter l'anniversaire d'Aqua. où il montre.
Now let me show you windows.
Les fenêtres. Évidemment, tout le monde rit parce qu'il y a une référence.
This is what the top of Windows look like.
Là, il montre
les trois boutons. Look like a traffic signal, don't they? Red means close the window, yellow means minimize the window, and green means maximize the window. Pretty simple. And tremendous fit and finish in this operating system. When you roll over these things, you get those. You see them? You know? And when you are no longer the key window, you know, they go transparent. So a lot of fit and finish in this. In addition to the fit and finish, we paid a lot of attention to dynamics. Not only how do things look.
Et on va continuer comme ça et je vais terminer comme ça. Je vais conclure. Mais cette présentation là est assez longue où on montre tous les simples détails. Il montre que dans le coin en haut à droite, en haut à gauche des fenêtres, on a un bouton vert, un bouton jaune, un bouton rouge et il reprend la thématique des lumières de circulation, des feux de circulation. Il explique aussi que quand la fenêtre n'est pas active, ils deviennent transparents, ils deviennent en arrière. Quand on passe le curseur, on voit un petit plus. Il montre tous ces fins détails là qui, je pense, comme tu disais, Audrey, sont nécessaires maintenant pour certaines personnes pour l'apprentissage. Et il explique dans cette présentation-là que, évidemment, c'est un vendeur, hein, Steve Jobs, il explique que cette interface-là est autant adaptée pour des professionnels qui veulent aller plus loin que des gens qui veulent, qui connaissent pas l'informatique et qui sont, qui débutent là-dedans. Alors, la présentation est vraiment chouette. Scott Forstall, je pense, il apparaît à la fin, celui qui a préparé ça avec Steve Jobs. Mais bref, c'était un gros mouvement d'avoir ce nouvelle version de Mac-là, parce que ça signait, en fait, le retour de Steve Jobs, aussi chez Apple. Audrey, avais-tu quelque chose à ajouter?
Non, je voulais juste dire que 20 ans après, je suis encore à expliquer à mes clients que quand une fenêtre, elle est blanche, c'est qu'elle est en arrière-plan, donc faut d'abord cliquer dessus pour la faire revenir au premier plan, ou alors que, oui, le bouton jaune, ça sert à réduire. En fait, les gens, ils se retrouvent devant des trucs et ils comprennent pas, et la gestion des fenêtres, notamment, c'est très compliqué pour les débutants, alors qu'on a des ordinateurs super rapides et tout, je pense que le Mac, même si ça reste un appareil intuitif, il a un peu perdu de ça avec les années.
Absolument. Je suis d'accord, la nouvelle version, je trouve qu'elle bonifie certains trucs. En tout cas, elle vient chercher des rappels d'interface graphique des appareils mobiles. Et ça, je pense que c'est super intéressant.
Oui, ça, les boutons pareil partout, c'est cool. Parce que c'est plus simple à utiliser. On va dire que presque si tu sais utiliser les boutons de ton iPhone ou ton iPad, quand tu arrives sur Mac, tu retrouves des repères. Donc c'est plutôt bien.
Écoute, le temps me presse parce que mon décalage horaire fait que je retourne travailler dans quelques minutes. Mais avant, on a toujours la section pensée, réflexion personnelle. Audrey, cette semaine, En fait, tu nous présentes encore là dans l'idée de faire d'aider les gens à apprendre des choses. Tu nous as préparé quelque chose de gratuit. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle.
Ben écoute, c'est une parfaite transition avec ce dont on vient de parler, justement. C'est quand tu en as parlé que, du coup, j'ai mis cette image-là dans ma réflexion du mois dans la note, parce que, ouais, je propose un petit pense-bête à imprimer chez soi, donc c'est un A4 recto verso, un petit dépliant, qui reprend les symboles, les boutons, justement, des iPhones et des iPads, donc, physiquement, c'est assez simple, c'est-à-dire je vous mets le petit symbole et à quoi ça correspond. Parce que souvent, on se retrouve des fois devant des boutons et on se dit « mais à quoi ça sert déjà ?» et on n'a pas toujours l'explication à côté. Donc c'est un petit pense-bête à télécharger gratuitement sur mon site, www.formationapple.fr, vous pourrez le trouver, il est dispo.
Et je vais...
Il est fantastique.
Ouais, et vraiment, merci beaucoup de l'avoir fait. Je vais envoyer ça à mes parents, que je dépanne souvent.
Moi, j'ai fait pareil.
Ah, c'est cool. Merci.
Je l'ai déjà imprimé, prêt à envoyer. Tu vois, j'ai plus qu'à aller poster. Et c'est pas dans l'idée que... Ma mère se débrouille plutôt bien avec son iPad, mais c'est quand elle m'appelle et qu'elle a un problème, voilà. Et que je lui dis, alors il faut appuyer sur le symbole comme ça, et elle l'appelle tout autrement. Mm. Et du coup, faut qu'on trouve un langage commun, donc je vais lui imprimer, comme ça elle pourra se référer au moins qu'on ait quelque chose en commun, que je pourrais lui dire, tu vois, c'est ce qui s'appelle comme ça, regarde le petit logo, c'est ça que je veux.
Ça me rappelle la pierre de rosée, hein, qu'on s'est servi pour comprendre les hiéroglyphes, là.
Bah, exactement.
Égyptien. Merci Audrey, tu as créé la pierre de rosée pour les appareils iPhone.
Parce que pour l'anecdote, ma mère appelle le symbole Wi-Fi la part de tarte. Hein, donc,
Ah ouais. Moi, on m'a dit aussi part de camembert. Ouais, j'entends des trucs. Ouais.
Et ouais, le Bluetooth... La première fois, j'ai fait...
Le Bluetooth, c'est indescriptible.
Ah oui, ça c'est clair.
Et après, alors je voulais vous dire, comme j'ai eu pas mal de retours, les gens étaient très contents. Je l'ai mis que hier, hein, mais les gens étaient très contents. Il y avait quelques petites erreurs. Du coup, j'ai corrigé le fichier tout à l'heure, donc vous pouvez le... télécharger la nouvelle version et le réimprimer. Du coup, je fais un peu de gaspillage, mais il y avait 2-3 symboles qui étaient copiés-collés plusieurs fois, donc la version qui est en ligne, elle est bonne là. Vous pouvez réutiliser le lien qu'il y a dans le mail, c'est le même.
Ah, ça fait plaisir parce que on a un élément tangible pour ma mère pour comprendre son iPad qui est simple dans une page. Merci infiniment. De mon côté, je vais y aller dans plus la réflexion. Ce mois-ci, je suis en train de lire le livre « L'essentialisme, faire moins mais mieux, l'art d'être réellement efficace » par Greg McGeogh, je pense que je le prononce très mal. Puis la citation, elle va comme suit. Le mot priorité a fait... Ben, c'est pas une citation, c'est un bout du livre. Le mot priorité a fait son apparition au 14e siècle. Toujours au singulier. Il s'appliquait à une chose qui est la première parmi d'autres et qui était avant une autre. Ce n'est qu'à partir du 20e siècle, du 19e siècle, que le pluriel a fait son apparition et qu'on en a commencé à parler de priorité avec un S. Je trouve cette phrase ultra puissante quand vous êtes dans un contexte peut-être de travail, peut-être pas quand vous êtes tout seul, mais de travail, de comprendre que priorité, c'était peut-être mieux au 14e siècle parce que quand quelqu'un dit « ça, c'est mes 10 top priorités », il y a quelque chose au niveau du langage, il y a quelque chose qu'on comprend pas, en tout cas moi dans ma tête. Je vous ai donné cette petite citation là, ce passage de livre là qui peut être intéressant pour justifier qu'une personne vous priorise vraiment les choses. Vous pouvez reprendre ça en lui disant, regarde, tu peux-tu faire comme au 14e siècle, puis me dire c'est quoi la vraie priorité sur laquelle tu veux que je travaille. Ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Fait que je voulais juste relayer ça. Laurent, je te prends comme ça à chaud, à partager au niveau de réflexion personnelle, pensée du mois. Ça se peut que t'aies rien, bon, à part écoute, le podcast, ton podcast peut-être.
Ouais, on espère un épisode bientôt d'ailleurs. Mais non, écoute, peut-être quelque chose que je peux mentionner, alors c'est autour de ma carrière, tu vois, je disais hier, je fêtais les 20 ans de macOS 10, enfin de la sortie officielle de la 10.0, et je disais, en même temps, ça correspond aux 20 ans de ma carrière dans le monde Mac, et faut voir que moi, avant de faire ce que je fais maintenant, hein, de travailler dans le Mac et à différents niveaux, j'ai fait du droit. Et donc, comme quoi, on peut changer de carrière plus par passion. Moi, je suis passé au Mac, vraiment, c'était une passion plutôt qu'autre chose. Et ça peut arriver et ça peut amener à des belles carrières, quoi.
Ben écoute, le droit, quand on lit les CGU, puis quand on lit tout ça au niveau informatique, ça peut être très utile. Ouais. Ça peut être très utile.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand on en est à les lire tout seul, on a rarement de poids sur, sur les CGU. Et si on est à un niveau où on peut avoir du poids auprès du fournisseur, on a de toute façon un département juridique pour le faire pour soi. Tout va bien.
Absolument.
Mais souvent, on tombe dans le Mac par passion, hein.
Ouais.
C'est un truc que si t'y plonges toute ta vie, ça te suit toute ta vie.
Moi, tout bêtement, hein, j'y suis venu pour la photo. Hein.
Ah bah oui, ouais.
C'est au travers de la lecture de magazines photo, hein, on en revient au sujet du jour, mais de magazines photo à l'époque, qui ont commencé au début des années 90, hein, c'est pour dire, c'était 91, 92, à parler du numérique et de comment gérer ces photos. Alors à l'époque, il fallait les scanner, hein, il n'y avait pas d'appareil photo numérique ou... Bon, en tout cas, ils étaient balbutiants. Il y en avait, mais ils étaient très très balbutiants. Ils coûtaient très très cher. Ils coûtaient le prix d'une voiture. Mais c'est comme ça que j'y commençais à m'y intéresser. Alors, je connaissais le Mac avant, hein, mais j'étais pas plus intéressé que ça. Et c'est vraiment ce qui a été le déclencheur, quoi.
Et ouais.
Donc, on tourne en boucle.
Passionnant, passionnant. Écoutez, juste en terminant, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Laurent, sur les médias sociaux pour avoir des trucs sur la photo ou pour te suivre si tu partages des éléments sur la photo?
Ouais, je pose des réflexions sur Twitter, on va dire. Alors, elles sont rarement d'une grande pensée, mais c'est @lolopb. Et sinon, pour le podcast, c'est 3h1p.fr. C'est 3 hommes et un podcast.fr aussi, mais le 3h1p marche très bien et ça va plus vite.
Audrey, et toi, comment pouvons-nous te rejoindre et bénéficier de toutes ces capsules d'intelligence que tu nous partages?
Pas toujours.
Ma mère est fan, hein, en tout cas.
moi, c'est toujours pareil, @AudreyCoulot sur Twitter. Je suis un peu moins en ce moment parce que je trouve que c'est un peu la guerre en ce moment là sur Twitter.
Ouais.
Tout le monde défend son truc, ça me fatigue. Enfin voilà, dès le matin, donc j'y vais pour publier des trucs positifs et puis répandre. J'allais dire la bonne parole, mais peut-être pas. Juste, dire ce que j'ai à dire et puis partager surtout mon contenu. Et sinon, vous retrouvez tout sur www.formationapple.fr.
Formation.
Et toi, Matt?
Au pluriel, oui. Moi, vous pouvez m'en joindre sur profduweb.com. Il y a tous les liens qui vont bien. On se retrouve le mois prochain avec une autre émission. Laurent, merci infiniment de transmettre ta passion, ton savoir sur la photo. C'était fort apprécié. Et puis, je note que tu nous as presque dit oui pour un autre épisode.
Non, j'ai pas presque. Hein. N'hésitez pas.
Cool. Merci.
J'adore parler et vous êtes... franchement, c'était un plaisir d'être avec vous.
Merci.
Ben, écoute, merci beaucoup, Laurent.
Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage, Matt.
Ouais, nous, c'est la fin de la journée, mais toi...
Ouais.
Ciao, ciao tout le monde. Merci, bye bye.
Salut, à bientôt.